Tout à l'heure, je vous ai montré une photo que j'ai prise pendant nos vacances. Nous sommes allés en montagne, en Haute-Maurienne vanoise, plus précisément. Donc pour y aller, c'est pas compliqué, vous prenez la nationale là, qui est en bas et vous la suivez jusqu'au bout, on y arrive, puisque c'est la route, c'est l'ancienne nationale 6 qui va jusqu'à Modane et puis le Mont-Cenis et qui va jusqu'à Suse en Italie. Et on a vu de superbes paysages. Il suffisait de lever les yeux, on parlait de lever les yeux tout à l'heure. On était émerveillés par ce qui nous entourait. Alors les photos comme ça, si ça va, ça rend quand même. Des sommets, des glaciers, des cascades avec beaucoup d'eau, au moins au début, il y en avait moins à la fin, mais on a vu beaucoup de cascades et ça faisait plaisir de voir qu'il y avait de l'eau. De belles fleurs, beaucoup de belles fleurs en montagne. Des marmottes, on en a vu beaucoup. J'ai des dizaines de photos de marmottes. Je vais raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le message, mais j'ai failli être blessé par une marmotte. Ça paraît assez extraordinaire, mais on se baladait et un peu en haut, il y avait une marmotte qui creusait un trou. Creusait un trou, donc on voyait. Et 2 minutes après, donc sur un chemin, et 2 minutes après, je vois un caillou, comme ça, qui m'est passé devant le. Mais vraiment, comme ça. Et c'était un caillou, donc à 10 centimètres près, il arrivait là. Bon, voilà. Donc je pourrais dire que j'ai failli être au moins blessé. Oui, c'était assez. Rétrospectivement, j'ai eu peur quand même. Mais je leur en ai pas voulu, j'ai pris beaucoup de photos de marmottes. Alors, vous savez qu'il y a des chemins en montagne qui s'appellent des chemins de grande randonnée, hein, des GR. Vous savez, ils sont balisés avec des signes blancs et rouges, hein, les GR. Ça permet de s'orienter, de se diriger, de ne pas se perdre. Et en Haute-Maurienne, il y a une variante du GR5 qui s'appelle le chemin du petit bonheur. Alors vous imaginez bien que c'est un mot qui attire, hein. Je pense que le mot n'a pas été choisi par hasard. Je crois qu'il y a des explications un peu diverses et variées. C'est un chemin qui existe depuis très longtemps, qui fait 50 km de long, entre Modane, pour ceux qui connaissent, à 1000 mètres d'altitude, et puis le hameau de l'Écho à 2000 mètres d'altitude. Vous voyez, il y a une belle. Mais qu'on peut emprunter par morceaux d'un village à l'autre. Et il s'appelle le chemin du petit bonheur. Donc voilà, un chemin qui a été, par contre, récemment aménagé. Vous voyez, il y a du jaune de chaque côté. Et régulièrement, le long du chemin, il y a des. Différents mobiliers, il y en a d'autres, hein. Il y a des ponts, et il y a toujours deux côtés jaunes, et on sait comme ça d'où on vient et où on doit aller. Des panneaux indicateurs, des bancs, des différentes installations. Il y a même un manche à air qui est à côté d'un petit aérodrome. Il y a le vrai à côté, mais voilà. Et donc, on a des indications qui sont facilement trouvables et facilement reconnaissables. Qui permettent de suivre le chemin en toute sécurité, sans risque de se perdre. Et donc, un chemin où on peut s'engager avec assurance, parce qu'on sait d'où il vient et où il mène. Voilà. On a chanté tout à l'heure le chemin, la vérité et la vie, c'était pas pour rien. On va parler de ce chemin-là. Mais c'est ce chemin du petit bonheur qui est quand même assez intéressant par son nom. Et qui est, si vous y allez, ça vaut le coup de le faire. On ne l'a pas fait en entier, on n'a pas fait les 50 km, mais on a fait, en 3 semaines, on a eu le temps d'en faire un bon morceau de ce chemin du petit bonheur. Alors avant d'arriver au texte de Jean, j'ai voulu quand même rappeler que dans la Bible, il y a deux chemins très connus, mais c'est des chemins de rencontre avec Jésus. Si je vous pose la question sur ces deux chemins les plus connus de rencontre avec Jésus, vous me diriez lesquels ? Il y en a peut-être auxquels je n'ai pas pensé. Voilà, le chemin de Damas et Emmaüs. Voilà. J'ai pensé à ces deux chemins-là. Le chemin de Damas, où Saül de Tars, qu'on appelle ensuite Paul, il est aveuglé, il tombe à terre et il entend la voix de Jésus. Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et puis le chemin d'Emmaüs, où ses deux disciples rencontrent Jésus juste après la résurrection, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils mangent avec lui, et ensuite, ils le reconnaissent, mais il est déjà parti. Et puis il y a cette phrase qu'ils disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas, au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures. » Il y a beaucoup de chemins de rencontre avec Jésus. Je pense qu'on a chacun le sien. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce chemin de rencontre avec Jésus. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Ça viendra. Et donc ce chemin du petit bonheur, il m'a fait penser à cet autre chemin qui est dans l'évangile de Jean. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on l'a chanté. Jésus dit à ses apôtres « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus et croyez en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, avant ce verset, il y a cette parole du Christ. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. A priori, ce n'est pas le même chemin. Je peux le remettre. Le chemin du verset 4, c'est le verset 4, n'est pas le même chemin que le verset 6. Jésus ne parle pas du chemin que nous devons suivre, mais c'est le chemin que lui doit suivre. À ce moment-là, lui-même, à ce moment-là. Et lui tout seul. À la fin du chapitre précédent, il l'a dit à Pierre, au verset 36, Simon Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant. » là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Les disciples n'avaient pas compris de quoi il parlait. Ce chemin-là, c'est celui qui mène à la croix. C'est un chemin de croix que Jésus, lui tout seul, va emprunter, une fois pour toutes, comme on l'a lu tout à l'heure au moment de la scène, pour chacun et chacune d'entre nous, et en portant le poids de nos péchés. C'est cette mort à la croix qui nous ouvre le chemin. Dans la suite de ce que j'ai lu tout à l'heure, dans Hébreux 10, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère. Avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, pour s'approcher, il y a un seul chemin, un chemin unique. Pas besoin de se poser la question, hein, il faut suivre ce chemin. Pourtant, si vous posez la question autour de vous, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs façons de vivre. Non mais comment pourrait-on prétendre, comment peut-on oser prétendre imposer son mode de vie, sa vérité aux autres ? Ça peut paraître choquant, vu de l'extérieur, cette exclusivité. Jésus est le seul et unique chemin, la seule source de vie. Ce n'est pas un chemin facile. Entrer par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Là, il n'y avait personne, mais c'était un chemin qui était bien emprunté, mais voilà, j'avais pas trouvé de photo avec beaucoup de monde dessus. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Là, il y avait moins de monde sur ce chemin qui était plus étroit et parfois un petit peu vertigineux. Voilà, c'était juste pour illustrer avec des photos ces deux versets. C'est surtout les versets qui sont importants, pas les photos. Alors pourquoi suivre ce chemin ? Et puis d'abord, cette phrase-là de Jésus, Jésus est le chemin. Jésus dit « Je suis le chemin ». Comment il peut être le chemin ? Un chemin, ça va d'un endroit A à un endroit B, d'où il part, où il va, ce chemin. On peut penser que ce chemin y mène à la vie éternelle, et plus encore, plus précisément, Jésus le dit, c'est le chemin qui mène au Père. C'est le chemin qui mène aussi à la vérité du Père. Il y a une cohérence entre les trois termes, le chemin, la vérité et la vie, en Jésus, pour mener à Dieu. Je pense que Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité et la vie. Jésus est la vérité parce que Dieu est révélé par lui, Dieu est révélé en lui. Je crois que c'est Pierre qui l'a dit dans sa prière tout à l'heure, je ne sais plus. Dieu est révélé en Jésus qui est la parole incarnée, comme le dit Jean au début du chapitre 1. Et Jésus est la vie, il donne la vie. Il l'a fait sur la terre en donnant la vie, par exemple, en redonnant la vie à Lazare, mais surtout il donne la vie éternelle. Et il donne la vie éternelle en donnant sa propre vie. Jésus est donc le chemin qui mène à Dieu son Père. Et Jésus le dit à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc le point d'arrivée, c'est le Père. Mais le point de départ de ce chemin, bon, je pense que c'est chacun de nous. C'est notre vie terrestre, notre vie humaine avec tout ce qu'elle contient, notre condition de pécheur, mais aussi cette possibilité qu'on a, cette possibilité qui nous est donnée, de choisir quel chemin prendre. Jean dit que Jésus a accordé à tous ceux qui ont cru en lui le privilège ou le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est pas si simple hein, de choisir le bon chemin. À l'époque de Jésus, il était courant de croire en plusieurs dieux, vous savez, hein, dans les différentes civilisations. Aujourd'hui, il est courant de ne pas croire en Dieu, de se faire sa propre idée de ce que peut être Dieu. Parfois, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Hein. Il y a plein de directions. Quelle est la bonne à choisir ? Des fois, c'est marqué la même chose sur deux panneaux qui vont dans une direction opposée. Et oui, tous les chemins mènent à Rome, mais pas à Jésus. Certains croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. Certains pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Certains pensent qu'on ira tous au paradis. Vous savez, dans la chanson, passage, il y a... Si vous écoutez les paroles, on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Si on est maudit, par définition, bon. Bref, je ferme la parenthèse. Alors Jésus ne fait pas que nous montrer le chemin. Il ne se limite pas à diriger nos pas dans le chemin de la paix, comme le dit Zacharie, hein, dont le père de Jean-Baptiste, Luc 1, 79. Jésus est le chemin. Jésus est celui qui nous permet cette relation personnelle avec Dieu son Père. C'est lui qui nettoie le chemin, qui est embarrassé de nos fautes. C'est lui qui enlève les obstacles. En montagne, on se fixe un objectif d'arriver au bout d'une randonnée, hein, Sylvie. Parfois ça monte. Ça monte encore. Puis on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Puis quand on croit qu'on est arrivé, ben ça monte encore. Il y a encore du chemin. Le chemin était caché, ça monte encore. Il faut monter tout là-haut, puis après, voilà. Mais on continue parce que on sait ce qu'il y a au bout du chemin. Dans la vie, c'est un peu pareil, hein. Il y a des obstacles, il y a des peines, il y a la maladie, il y a nos péchés. Puis des fois, on croit qu'on est venu à bout, après un gros effort, et puis ben, souvent, ça recommence. Ça monte toujours. Et puis, il y a un moment où on arrive au but. On a mis plus longtemps que prévu, mais on y est. On ne comprend pas toujours hein, pourquoi on a mis autant de temps dans la vie à y arriver. Des fois, on le comprend beaucoup plus tard. Mais souvent, il y a une récompense. Au bout de la randonnée, il y a un lac, il y a une vallée, il y a un paysage inattendu. Et puis, on s'arrête pour se reposer. Matthieu 11, « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Le chemin que nous avons à emprunter peut être large, sans difficulté, ou il peut être très, très étroit, très dangereux, avec des risques de chute. Il peut être plat, et puis il peut être pentu, difficile à gravir. On peut marcher vite, on peut marcher très lentement. Mais si on le veut, on marche avec Jésus. Alors parfois, on a l'impression de marcher seul, hein, d'avoir perdu la connexion avec Dieu. Alors en montagne, c'est l'inverse. Souvent, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion Internet, et on a l'impression de renouer la connexion avec Dieu. Il n'y a pas de réseau en altitude. Une petite une petite anecdote. Il y a un endroit où il y a du réseau, mais c'est une petite zone comme ça de quelques mètres, parce qu'en face là-bas, il y a une antenne qui capte, mais ça dure 100 mètres, 150 mètres. Et donc, ils ont mis une cabine. Et puis, il y avait le bonheur, ici passe le portable. Ça rejoint mon chemin du petit bonheur tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment le bonheur de retrouver de la connexion? Ça peut être important dans certains cas. Mais voilà, c'était encore un petit clin d'œil. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ce chemin, cette cabine est à, je ne sais pas, 200, 300 mètres du chemin normal, et c'est marqué téléphone. c'est assez rigolo. Mais voilà, quand on est en montagne, il n'y a pas de réseau. On est tout seul. Des fois, ce n'est pas facile parce qu'on n'a plus le Google Maps pour s'orienter. Donc, il vaut mieux avoir la carte papier. Mais au moins, on voit ce qui est autour de nous. On profite. Est-ce qu'on profite de la présence de Dieu? Sans doute. En tout cas, on profite des paysages qui nous rappellent la grandeur de notre Dieu. Et donc, des fois, dans la vie, c'est vrai qu'on perd le... Il peut nous arriver de perdre ce contact avec Dieu, parce que le chemin est trop difficile, ça monte trop. On a vraiment l'impression qu'on ne va jamais arriver au bout du chemin. Ou alors, il y a trop de monde. On suit la foule, justement, on n'est pas en haute montagne, il y a plein de monde, on suit la foule, et il y a trop de bruit, il y a plein de choses qui circulent, qu'on entend. Des fausses vérités qui peuvent nous troubler, sans qu'on le sache. On peut entendre des fausses vérités sans savoir que c'est une fausse vérité. Mais voilà, on ne doit pas se décourager. On ne doit pas oublier qu'au bout du chemin, il y a une source, il y a un lac, il y a de l'eau. Et l'eau apaise la soif. Voilà, pour conclure, dans ce coin-là, il y a ce chemin du petit bonheur, avec un nom qui met en confiance. Donc Jésus, lui, il est le chemin du bonheur, simplement. Un bonheur non humain, j'allais dire. Un bonheur sans limite. Il n'y a pas le départ et l'arrivée. Un bonheur éternel. Et c'est à chacun d'entre nous de le trouver au travers de la lecture, de la parole, de la prière, d'une vie en cohérence avec les commandements qu'il nous a laissés. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'accepter et de bien comprendre cette phrase « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je propose une courte prière pour terminer. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta parole qui est arrivée jusqu'à nous au cours des siècles. Je voudrais te remercier aussi pour cette famille que nous formons en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, merci pour la vérité que tu nous apportes. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes ici, plus tard. Et Seigneur, merci pour ce chemin que tu es pour chacun d'entre nous. Amen.